penser et dire sa foi. Une émission proposée par Jean-Michel Poirier. Penser et dire sa foi. Une émission en dialogue animée par des enseignants et des étudiants de l'IURP à Toulouse.
Bonjour Père François de Larbouste.
Bonjour Jean-Michel.
Je rappelle que vous êtes curé doyen de Grenade-sur-Garonne. Vous êtes également enseignant à l'IR pour vous donner le cours de Christologie précisément. Et on vous a invité dans cette émission dans la perspective de la fête de Noël. Donc nous sommes au mois de décembre. Cette fête de l'incarnation de celui en qui la foi reconnaît à la fois un vrai Dieu et vrai homme, ou bien vrai homme et vrai Dieu. Et justement, cette qualification, cette double qualification a quand même, d'une part, pas été une évidence pour tout le monde dès le départ, et même dans les premiers siècles de l'Église, ça n'a pas été une évidence. Il y a eu beaucoup de débats à ce sujet, et d'ailleurs ça ne l'est toujours pas.
Alors il y a eu des hérésies, il faudra sans doute y revenir, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que dès la Pentecôte, les apôtres et avec eux l'Église naissante croient fermement que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit et que le Père a envoyé son Fils et pour nous sauver dans la puissance du Saint-Esprit. Ça, on ne peut pas dire que c'est une création des conciles postérieurs ou une œuvre politique avec Constantin ou je ne sais quoi. Donc déjà, ça fait vraiment partie du cœur profond de la foi. Même si ça représente finalement un long chemin pour les disciples et qu'ils ne sont pas arrivés à cette conclusion immédiate. Conclusion, à vrai dire, c'était moins le fruit d'un raisonnement que d'une expérience et puis de l'assistance du Saint-Esprit. Mais c'est vrai que les apôtres, quand ils voient Jésus au bord du lac, qu'est-ce qu'ils voient ? Il voit le fils du charpentier, un homme de Nazareth, et de Nazareth que peut sortir de bon. Il est semblable à nous en toutes choses. Hein? Et donc, il voit d'abord l'humanité du Christ. Hein? Et une humanité du Christ dont je pense nous n'avons pas une juste idée, parce que nous avons une image bien très sacrée de Jésus, parfois, quelquefois un peu sulpicienne et un peu édulcorée, mais c'est une véritable humanité. Hein? Jésus devait rire, Jésus devait... voilà, une vie pleine. Et c'était pas évident de deviner sous l'humanité toute réelle, eh bien, sa divinité.
Et même, est-ce que lorsqu'il appelle les disciples, lorsqu'il les rencontre au bord du lac, il mesure déjà que c'est le Messie ?
Alors, il ne mesure pas immédiatement que c'est le Messie. Jésus va finalement se révéler dans ses paroles et dans ses actes. Hein. Et surtout que ce Messie soit le Fils de Dieu lui-même, venu, c'est-à-dire que Dieu finalement n'a pas envoyé un sous-fifre, un prophète, un Messie qui sera un homme ordinaire, mais qu'il est venu lui-même, ça, il va falloir tout un chemin. Et d'abord, les apôtres, ils vont être, il y a certaines choses qui vont les étonner chez Jésus. Hein. Toute la question de l'évangile, c'est qui est cet homme, hein. Cet homme, en tout, un homme ordinaire en soi, hein, mais comment se fait-il et d'où vient-il pour qu'il parle, il agisse ainsi? Il y a les miracles, hein. Les miracles de Jésus, qui n'ont pas tous la même valeur, parce que les prophètes aussi ont fait des miracles, hein, et qu'il y avait aussi des magiciens qui faisaient des miracles. Hein. Mais enfin bon, il y a miracle et miracle. Hein. Quand Jésus guérit un infirme, c'est une chose. Quand il chasse des démons, c'est peut-être davantage encore. Et quand il ressuscite un mort, là quand même on dit il semble maître de la vie. Hein. Il y a des miracles qui semblent manifester quelque chose de la divinité. Par exemple, quand Jésus calme la tempête, est-ce que c'est pas l'action de Dieu d'être maître des éléments, hein? Ou encore des miracles qui, pour un juif, ne peut pas ne pas évoquer l'Ancien Testament. Songeons, par exemple, à la multiplication des pains. Dieu nourrit son peuple au désert. Hein? Et ici, on voit bien qu'il, comme à la place de Dieu, il nourrit son peuple. Et c'est déjà une révélation, pas totalement évidente, mais qui demande à être déchiffrée, de sa divinité.
Soit dit par parenthèse, enfin, en même temps, c'est un élément important. Vous venez de nous dire là, sans tout à fait le dire d'ailleurs, mais... je pense que je ne trahis pas votre pensée, en disant qu'il y a besoin de la grille des écritures, c'est-à-dire des écritures d'Israël, pour comprendre la profondeur de ce que pose Jésus. C'est-à-dire que lorsqu'il multiplie les pains, quelqu'un qui n'a pas du tout la connaissance des traditions de l'Exode, ou bien des traditions concernant Élisée, ne va pas l'interpréter avec la même profondeur que ceux qui connaissent les Écritures.
Ça, c'est évident. Les disciples sont juifs, le fruit des héritiers de l'histoire d'Israël, et leur foi n'est pas contredite par le Christ, mais accomplie justement. Donc c'est dans un cadre juif qu'on peut comprendre véritablement qui est le Christ.
On peut évoquer ici les disciples d'Emmaüs, où Jésus, partant de Moïse et des prophètes, leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin de cette connaissance des Écritures, de toute cette expérience aussi dont vous avez parlé la fois précédente, c'est-à-dire de toute cette attente, de toutes ces expériences d'Israël, qui représentent aussi celles de l'humanité, hein, qui nous aident à mieux comprendre la portée de ce qui se passe à Noël et puis tout au long de la vie, de la mission de Jésus.
C'est vrai. Et Jésus toujours se réfère à ce cadre, et y compris dans ses paroles les plus fortes. Hein. Jésus, par exemple, à certains moments dit « je suis hein, »,« je suis absolu hein. ». Et ça, même à un moment, le jardin des Oliviers, les gardes tombent. Hein, et ainsi, il se réfère à l'Ancien Testament, au nom donné à Moïse. Hein, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris, dit Dieu. Et Moïse lui dit, tu m'envoies vers ce peuple, mais que leur dirais-je? Quel est ton nom? Et Dieu répond, même s'il y a plusieurs traductions possibles, « je suis ». Et donc Jésus reprend aussi ce nom-là. Il y a bien des moments. Jésus reprend aussi, et ça c'est incompréhensible sans avoir l'Ancien Testament en tête, le nom de Fils de l'homme. Ça c'est très fort. Hein. C'est très présent dans l'Évangile. Très présent et certainement c'est le nom qui indique le plus presque la divinité de Jésus en même temps que sa messianité, mais ça fait référence au livre de Daniel, hein, un des derniers livres de la Bible, avec une vision apocalyptique, je vis comme un fils d'homme, etc., celui qui viendra établir le royaume.
Hein. Oui, c'est d'ailleurs assez étrange que l'expression fils de l'homme soit plus chargée, si je puis dire, de divinité que l'expression fils de Dieu.
C'est tout à fait vrai. Oui.
Alors c'est... Pour résumer tout ce qu'on vient de dire là, j'aimerais citer une parole de quelqu'un qui a vécu à Bethléem et travaillé à Bethléem, puisque nous sommes à Bethléem en ce temps de Noël. C'est Saint Jérôme qui avait cette formule, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Ouais. Et les Écritures, il voulait parler ici de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et effectivement, si on ignore l'Ancien Testament, on a du mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que le Christ.
Ça n'a pas de sens. Et puis, on peut dire qu'à l'incarnation... Dieu rentre dans l'histoire, mais il rentre dans l'histoire parce qu'il avait déjà agi dans l'histoire. Je veux dire, le propre de la foi biblique, c'est que Dieu, qui est totalement transcendant, il est le Très-Haut, il n'est pas confondu avec la créature comme dans les religions païennes, il est bien distinct de l'homme, hein, dans une véritable altérité, et en même temps, eh bien, c'est celui qui entend le cri de l'homme et qui intervient dans l'histoire, intervenant en sauvant son peuple de la main de Pharaon, venant par les prophètes, et puis, à la fin, quand les temps, au moment des temps des derniers, hein, eh bien, il a envoyé son propre fils. C'est le sommet, mais dans un continuum, de l'intervention de Dieu et de la proximité de Dieu avec l'homme. Et ça, évidemment... Toute l'Écriture sainte, et déjà l'Ancien Testament, nous le dit. Souvent, on imagine l'Ancien Testament comme un Dieu lointain, vengeur, etc. C'est ne l'avoir lu qu'à moitié. Il est plein de tendresse et d'amour pour l'homme.
Et même ce que nous dit le prologue de l'Évangile de Jean, que nous entendons à la messe du jour de Noël, le matin de Noël, le 25 décembre, la présence du Verbe qui se fait chair en Jésus, eh bien le Verbe était présent dès le commencement, et il est venu chez les hommes avant même l'incarnation, mais il est venu comme parole, comme présence. Mais c'est assez étonnant ça, cette vision joannique, hein, c'est comme assez propre à Jean, hein, mais cette espèce de présence, j'allais dire, du Verbe qui est Dieu le Fils, avant l'incarnation.
Alors,
est-ce qu'on peut dire ça d'ailleurs ?
Alors on peut, non seulement on peut, mais on doit le dire. D'ailleurs Jésus l'affirme lui-même. Hein. Jésus, dans un passage, c'est je crois dans le passage du pain de vie, hein, dit « Avant qu'Abraham fût, moi je suis hein. ». Passage qui provoque la stupeur et même la colère de ses auditeurs. Il dit, toi, tu n'as pas 50 ans, tu as connu Abraham. Eh bien, Jésus dit, moi, et veut ainsi désigner sa personne divine, car il est le Verbe, il est le Fils éternel, eh bien, il est préexistant. C'est-à-dire que dans sa personne, il est de toute éternité. Hein. En même temps que le Père, si je puis dire. Alors, en même temps, je suis entré dans le temps, mais il est coéternel avec le Père. Hein. La procession, la génération du Fils par le Père, c'est dans un acte éternel. Il n'y a eu aucun moment où le Père a été sans Fils, ni sans Esprit. Hein. Donc la Trinité, elle est éternelle. Oui, et c'est dans un éternel présent que Dieu engendre son Fils.
Et c'est ça qui est très beau dans notre foi chrétienne, c'est comment l'éternel ne cesse de frayer, en quelque sorte, avec le temps, avec le temps des hommes, avec l'histoire des hommes, et cela avant même l'incarnation. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'apporte l'incarnation ?
Oh, l'incarnation, oh, mon Dieu, on peut dire que toute notre foi et toute notre joie est dans l'incarnation. Hein. Encore une fois, revenons à Saint Jean qui dit « Ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu du Verbe de vie, nous vous l'annonçons car la vie s'est manifestée, nous en avons témoignage. » Il y a un émerveillement devant d'abord cette proximité de Dieu. Hein. C'est le Fils éternel du Père, hein, donc qui est Dieu lui-même. Hein. Ils sont consubstantiels. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, qui... alors qu'il est le Très-Haut, va épouser notre petitesse, hein, l'infirmité de notre condition, c'est ça la kénose, l'abaissement, hein, pour se faire proche de nous. Parce qu'aimer, c'est aussi se faire proche.
On pourrait dire, pour clore cette émission, en mode d'hommage à Christian Bobin qui vient de nous quitter, le Très-Haut s'est fait le Très-Bas, pour reprendre le titre de son premier grand ouvrage, le Très-Bas.
Mystérieusement, voilà, sans cesser d'être le Très-Haut, c'est-à-dire tout en restant ce qu'il était, il est devenu aussi le Très-Bas, infiniment proche de nous.
Merci cher François Larmoust, nous vous retrouvons, j'invite nos éditeurs à vous retrouver la semaine prochaine pour la suite de cette série d'émissions sur Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu.
Merci Père.